Luc Fortin, bon matin.
Bonjour, Steve.
Les étoiles de la semaine.
Oh oui, notre moment préféré de la semaine.
Oui.
On distribuer commence... des récompenses.
Ben oui, pour féliciter les gens qui
sur
se démarquent.
Sur la fin de la semaine. Tu vois, je fais comme en politique parce qu'on m'a accusé toute la dernière année de mon mandat de distribuer les bonbons juste avant les élections. Alors là, je distribue les bonbons dans ma chronique juste avant la fin de semaine. Tout le monde part heureux. Puis
mais c'est répétitif.
Je sème le bonheur à tout vent.
C'est répétitif et ça coûte rien.
Oui, effectivement.
Hein? C'est pas pire. On commence. Est-ce que tu vas sur la scène fédérale?
Oui. Et là, je t'ai dit tantôt que j'allais te surprendre.
Oui.
Oui. Alors retiens bien ta mâchoire pour pas qu'elle tombe par terre.
Oui.
C'est Jack Metzing.
Ben, je ne suis pas si surpris, mais
mon choix cette semaine.
J'hésitais entre Jack Mitt et Jody Wilson-Raybould.
Oui. Mais ceci étant dit, là, on va avoir la chance de revenir sur son cas. Lui, il était élu dans une partielle cette semaine. Puis, tu sais, on en a fait l'analyse. Je n'ai pas changé d'idée. Évidemment, il traîne son parti vers le bas. C'est une bonne nouvelle pour les libéraux qu'il ait été élu. Mais justement, je pense qu'il faut se mettre dans sa perspective à lui. Il a mis sa tête sur le bio. Il a gagné. Il a tout le moins sauvé sa carrière politique à court terme. Et je pense que ce matin, il faut quand même souligner son courage politique parce que c'était hautement risqué pour lui, cette élection partielle-là, pour deux raisons. D'une part, comme chef de parti qui est en difficulté, d'aller te présenter dans une élection partielle alors que l'élection générale approche à grands pas, ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour son parti s'il avait perdu. Parce que oui, on peut bien dire qu'il aurait changé de chef, peut-être que ça les aurait avantagés. Mais tu sais, le message que ça envoie, c'est que ça va vraiment pas bien. Non?
Mm-hmm.
Puis tu sais, t'as plein de choses de préparer, rendu là, t'es obligé de changer de chef, peut-être de perspective, de certaines orientations. Alors, c'était hautement risqué.
Et risqué aussi par le fait que ça a été un député ontarien.
Ben voilà.
Qui se présente en Colombie-Britannique.
C'est la deuxième raison, tu sais. Quand quelqu'un se présente 100 km à côté de chez lui, on le traite de parachuté.
Oui.
Puis ça fait l'objet de la campagne électorale. Lui, là, il a rien à voir avec la Colombie-Britannique, là. C'est un ontarien pur laine. Il est né à Scarborough. Il a été, il a grandi en Ontario, il a étudié à Toronto, il a été un député ontarien à l'Assemblée législative. Alors d'aller se présenter en Colombie-Britannique, oui, c'est un siège néo-démocrate depuis le milieu des années 2000, mais quand même, là, un risque très, très, très élevé, alors qu'il faisait face à des candidats locaux qui étaient quand même assez appréciés. La communauté asiatique dans une circonscription où il y a une forte communauté asiatique, alors c'était très, très risqué de sa part.
Il a réussi son pari.
Oui, il a réussi son pari. Puis ça démontre un certain courage politique. Puis
oui.
Je pense qu'il faut le souligner ce matin.
Oui, tout à fait. A été relativement posé aussi dans sa réplique à Justin Trudeau pour le témoignage de Mme Raybould.
Oui, parce que sa réaction était beaucoup plus mesurée que celle d'Andrew Scheer. Alors ça aussi, ça mérite la mention d'honneur de la semaine en politique fédérale.
Politique provinciale?
Oui. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation dans le gouvernement de François Legault. Pas toujours d'accord avec lui. Pas toujours d'accord avec ses façons de faire. Mais il y a un dossier sur lequel, cette semaine, j'ai beaucoup apprécié son action, la rapidité de son action et la justesse de son action, c'est sur la question des bulletins chiffrés.
D'accord avec toi.
Oui, parce que le Conseil supérieur de l'éducation suggérait là, qu'on abandonne les bulletins chiffrés pour éviter les comparaisons et les compétitions chez les enfants. Moi, j'ai bien de la misère avec ce principe-là là, de créer un monde artificiel pour les enfants parce que dans la vraie vie, là, ils vont vivre dans un monde compétitif. Quand ils font du sport la fin de semaine, ils sont dans un milieu compétitif. Même en musique, c'est la même affaire.
Ben oui.
Quand ils vont faire leur entrée au cégep, ils vont être choisis en fonction de leurs notes. C'est les meilleurs qui sont choisis. C'est la même chose à l'université. Quand ils vont postuler pour un emploi, c'est le meilleur qui va être choisi. C'est ça, la vraie vie. Alors, je pense que pas créer un monde artificiel alentour des enfants, ça fait partie du processus d'éducation. Puis oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'anxiété chez les enfants. C'est préoccupant. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Pas certain. Peut-être qu'avant, c'était juste pas diagnostiqué.
Pas mesuré.
Mais ceci étant dit, moi, je pense que c'est beaucoup plus de pression. C'est beaucoup plus dû aux pressions sociales. Tu sais, il faut que tu performes partout maintenant. Tu t'impliques partout, puis il faut que tu performes dans le sport, puis en musique.
Il a rejeté ça du revers de la main. Il a dit non, ça va être... On va continuer à garder ça chiffré.
Oui, puis il a raison sur le fait aussi que c'est un bon outil de communication pour les parents. Parce que ça te permet de voir où ton enfant se situe, mais aussi de mesurer le degré de sévérité du professeur. Parce que, tu sais, avoir 80 quand la moyenne est 70 ou avoir 80 quand la moyenne est 90, c'est pas tout à fait la même affaire.
Exact.
Tu sais, dans une matière, si ton enfant est plus faible que dans les autres, mais tu vois aussi que la moyenne du groupe est plus faible, tu te dis, ben peut-être pas juste de sa faute non plus. Tu sais, il y a un contexte d'évaluation ou peut-être un degré de sévérité de l'enseignant que tu dois prendre en considération. Alors, pour moi, c'est une bonne chose. Alors oui, c'est un bon outil de communication, c'est un bon outil d'évaluation. Puis je pense que c'est la même chose pour les adultes. Alors, tu sais, si lui, comme ancien enseignant, devait donner une note cette semaine à sa collègue, la ministre de la Culture, pour ses connaissances en histoire, mais il pourrait le donner zéro. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, là. C'est partout sur les médias sociaux. Nathalie Roy, la ministre de la Culture, dans une réponse en chambre hier à une question de Catherine Dorion de Québec solidaire sur Netflix, elle voulait expliquer pourquoi elle n'avait pas tous les pouvoirs sur Internet. Et là, elle a dit, ben regardez, là, on vit dans une société de droit, puis en vertu de la Constitution, Internet, c'est une responsabilité fédérale. C'est pas moi qui le dis, c'est les pères de la Confédération qui ont pensé à ça.
Ben oui.
En 1867, ben oui. Ils étaient visionnaires. Oui. Ils savaient qu'Internet allait arriver un jour.
ça a d'ailleurs souvent été un problème. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui n'ont jamais été décidées de façon officielle. Parce qu'évidemment, écoute, ça date, là.
Mais c'est pour ça que les pouvoirs résiduels sont prévus au gouvernement fédéral.
Mais ça amène des problèmes.
Oui.
Comme celui-là.
Mais ceci étant dit, tu sais, Internet en 1867, pas-y, Steve.
La télé n'était même pas passée.
Non. Alors, on va terminer sur une note, par contre, plus solennelle, plus sérieuse. Sur la scène locale, ma mention d'honneur cette semaine va à Jacques Madar à titre posthume. Préfet de la MRC de Coaticook, qui était maire de Saint-Malo depuis 13 ans. Mm-hmm. Il est décédé subitement le 13 février dernier. Je le fais aujourd'hui parce que c'est ses funérailles demain. Alors, la région aura la chance de lui rendre un hommage bien, bien mérité. C'est un homme apprécié qui a eu un impact régional. Puis on l'a vu même avec la réaction de la ville de Sherbrooke cette semaine qui a décidé de mettre ses drapeaux en berne. Alors, ça démontre que son rayonnement dépassait sa municipalité, dépassait également sa MRC. Moi, je l'ai rencontré souvent comme ministre de la région, comme député de Sherbrooke. Je le voyais interagir avec ses collègues, hautement apprécié. Puis c'est quelqu'un dont tu ne peux pas douter de la force de son engagement dans le service public. Un ancien militaire, moi ça aussi, je pense que ça parle beaucoup. Quelqu'un qui était prêt à faire les sacrifices pour son pays, je pense que ça mérite d'être souligné. Puis c'était justement un homme respectueux. Moi, j'ai eu la chance de le croiser dans plein de dossiers. Souviens-toi, une fois, j'ai eu... comme ministre de la Famille, à mon bureau de Sherbrooke, une manifestation des parents de la garderie Cocorico à Compton, que j'ai fermée parce que c'était une garderie illégale. Ça ne faisait pas l'affaire des parents qui me demandaient de revoir ma décision, mais je pense que pour de bons motifs, je n'ai pas revu cette décision-là. Et il était venu manifester avec les parents pour les soutenir. Il avait demandé de me rencontrer après, puis il m'a dit « Je comprends tout à fait ta situation, tout ça, je te demande juste de regarder ça. » Hyper respectueux.
Et c'était un homme de tous les combats. Tu sais, m'as parlé de cette manifestation-là. Moi, je l'ai côtoyé à Coaticook pour le Relais pour la vie. Il était là année après année, a été président d'honneur.
Ouais.
Et tu sais, je pense que même sa famille reconnaît tellement l'engagement que les dons qui
ont été mis au Relais pour la vie.
Au Relais pour la vie, mais c'était un homme, tu avais une cause, tu avais un souper spaghetti, une raison de ramasser de l'argent, il allait être là, c'est sûr.
Puis il allait être là, puis il allait être encouragé, il allait être appuyé. Alors, c'est un grand homme à qui je souhaitais rendre hommage ce matin parce qu'on va lui rendre hommage collectivement demain.
Petit clin d'œil, peut-être en terminant rapidement sur la chefferie au PLQ. Il y en a certains qui mentionnent on est à la recherche d'un sauveur externe. Est-ce qu'un candidat externe, ce serait crédible?
Bien, ça circule beaucoup, je dois le dire. Les gens disent André Fortin puis Dominique Anglade, ce sont de bons candidats, sont intéressants. Mais peut-être pas d'un profil assez élevé, on regarde à l'extérieur. Alors, c'est pas impossible. Il y en a des gens qui sont appris à approcher. Moi, je peux te dire qu'il y a bien du monde qui aurait aimé ça, que ce soit Mario Dumont qui fasse un retour aux sources. Tu te souviens, il était président de la commission jeunesse sur Robert Bourassa avant de fonder l'ADQ. Alors, mais semble-t-il qu'il a été approché, ça l'intéresse plus ou moins. Alors, il y avait beaucoup de déçus. Puis, on tend des perches, tu vois, il y a le nom
Mitch Garber, tu croirais-tu? Ah, Denis Coderre et Mitch Garber, c'est les deux noms les plus sérieux.
Denis Coderre, semble-t-il qu'il y a des gens qui l'approchent. Lui, il refuse de faire des commentaires.
Ça, c'est déjà bon signe.
Mais en même temps, tout le monde dit qu'il est tellement intéressé à revenir à la mairie de Montréal que c'est peut-être davantage ça, son projet politique.
On verra. Ben,
regarde ses médias sociaux, je pense que c'est crédible de penser qu'il veut revenir à la mairie de Montréal.
Oui, possible. Merci beaucoup, Luc.
Bye, bonne fin de semaine.
À la semaine prochaine.